Alors bonjour à tous, très heureux de voir les uns et les autres. Et n'ayez crainte, je n'ai pas mal. Je n'ai pas mal maintenant en tout cas. J'ai un torticolis, alors je suis un peu raide. Mais je n'ai pas mal, donc bénissons le Seigneur pour cela. Oui, non mais on va l'allumer.
J'ai l'habitude de prendre dans ses poches. Hein.
Voilà. Merci bien. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, on va voir plusieurs textes qui parlent de ce sujet de l'éducation des enfants. Le texte principal, c'est en Hébreux chapitre 12. C'est un texte qui parle de l'éducation du chrétien par le Seigneur, notre divin Père, mais les principes s'appliquent évidemment à l'éducation de la famille. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Allons maintenant dans l'autre livre qui parle beaucoup d'éducation des enfants et spécifiquement des enfants, Proverbes, livre des Proverbes qui est un livre de bon sens dans tous les domaines. Et quelques versets bien connus dans notre famille puisque mon père ne cessait de les répéter. Et on les connaissait par cœur. On connaissait Jean 3, 16 et puis les versets en Proverbes sur l'éducation des enfants, versets 13 et 14. Mon père avait une manière singulière d'interpréter ces versets. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, c'est chapitre 23, Proverbe 23. Pardon si je n'ai pas mentionné le nom du chapitre. Proverbe 23, il est important que vous puissiez voir que c'est écrit dans la Bible. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon père, il prenait ce verset, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Il disait, oui, quand tu le frappes de la verge, il crie comme s'il allait mourir. Il veut vous faire croire qu'il va mourir, et peut-être même qu'il voudrait mourir. Mais il ne mourra pas. Évidemment, il faut le faire comme la Bible le dit. Ce n'est pas du tout de la violence, c'est une correction. Ce n'est pas fait avec la colère. Un autre passage, en chapitre 29, Proverbe 29 et verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Un troisième texte, c'est Proverbe 13. Proverbe 13 et le verset 24. « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc on voit ici que l'amour de l'enfant est étroitement lié à la discipline et à la correction corporelle de l'enfant. Et c'est là que ce qui pose problème dans notre société aujourd'hui, on pense que si on lève la main sur un enfant, c'est qu'on ne l'aime pas ou qu'on use de violence envers lui. Et hélas, c'est très souvent le cas. Je dirais aussi, il y a beaucoup dans notre société de la violence verbale. Les parents qui usent de violence verbale envers leurs enfants. Et pourquoi cela ? Parce que ces parents-là ne sont pas vraiment des parents, ce sont des enfants qui n'ont jamais mûri. Ils se mettent au niveau de leurs enfants se fâchent, les parents se fâchent. Maman dit, attention, ne continue pas, sinon maman va se fâcher. Qu'est-ce qu'il comprend l'enfant ? Moi, je me fâche, j'ai 10 ans, maman se fâche, elle est comme moi. Seulement, comme elle est un peu plus forte que moi, elle peut me taper dessus. Mais quand je serai plus forte qu'elle, je pourrai m'y taper dessus. C'est une question de quelques années. Vous avez peut-être rencontré des parents qui ont déjà dit « Je ne frappe pas mon enfant, enfin, sauf quand je n'en peux plus. » Pourquoi on n'en peut plus ? Parce qu'on n'a pas discipliné son enfant quand il fallait le faire. L'enfant a continué, il nous a provoqué, on est tombé dans la colère et le coup est parti. On comprend le législateur qui est contre la violence faite aux enfants et aux femmes. Parce que dans notre système philosophique, on enseigne l'évolution. Et c'est quoi l'évolution sinon la survie du plus fort ? Que le plus fort gagne. Le père est plus fort que la mère, donc il peut taper la mère. La mère est plus forte que les gosses, elle peut taper les gosses. Et ainsi, il y a beaucoup de violence. Quand le coup part, il part. Hein. On tape la tête, on tape là où on peut, on prend l'instrument qu'on trouve à proximité. Il y a même des parents chrétiens. Je les ai entendus dire, mais non, je ne vais pas donner une fessée à mon enfant. Je ne suis pas encore assez en colère. C'est qu'il faut être en colère pour frapper son enfant, pour donner une correction à son enfant. C'est tout le contraire. Quand on est en colère, c'est là qu'il ne faut pas lever la main. Quel est le problème ici ? Le problème, c'est que nous vivons dans notre nature égoïste. Et nous sommes tous des égoïstes. Alors, nous pouvons céder cet égoïsme, confesser cet égoïsme au Seigneur et en obtenir la délivrance jour après jour. La délivrance n'est jamais définitive. L'égoïsme revient par la porte arrière. Hein. Mais nous pouvons demander au Seigneur de changer nos cœurs et être sanctifiés. Et puis alors, à ce moment-là, nous considérons nos enfants comme Dieu les considère. Et la raison pour laquelle nous les avons comme Dieu, pourquoi Dieu nous les a donnés. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné des enfants ? Dieu nous a donné des enfants parce qu'il nous confie la responsabilité d'en faire des adultes disciplinés, épanouis, mûrs. Et pour qu'ils soient disciplinés, épanouis et mûrs, nous devons l'être aussi. Il y a plus d'un parent qui est devenu mûr parce qu'il a eu des enfants. Je me souviens d'un jeune qui était animateur dans notre centre de vacances et je dois dire que pendant longtemps, il n'a pas mûri. Et je me disais, est-ce que ce garçon va jamais mûrir ? Il a eu un enfant. Après son mariage, Dieu lui a béni avec un enfant. Et l'enfant a peut-être 2 ans et demi, 3 ans, et j'ai revu ce frère, et puis il m'a paru complètement changé. Il avait mûri de 20 ans en 2 ans. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On se connaît depuis que tu es né. Jusqu'à présent, je t'ai trouvé plutôt gamin. Et puis il aurait dit, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que tu aies mûri? Je te vois mûri. Il a dit, c'est la naissance de mon enfant qui m'a fait un choc salutaire. Il a dit, j'ai vu que mon enfant me scrutait continuellement, regardait mes réactions, regardait, écoutait mes paroles. Et il s'est dit, attends, mais je ne peux plus être gamin, je ne peux plus être comme j'étais. Je suis maintenant père et je vais répondre devant Dieu de cet enfant. Il a dit, c'est ça qui m'a obligé à devenir adulte. Ouais, c'est bien, quand on le prend comme ça. Et donc, nous les parents, nous avons la plus grande responsabilité du monde. On peut le dire sans faire de la politique, le monde de demain, le caractère des gens qui habiteront sur cette planète demain sera largement en rapport avec la manière dont nous les avons éduqués. Et si nous parlons d'incivilité, de violence à l'école et de difficultés à l'école, c'est peut-être parce que les foyers d'où viennent ces enfants qui ont d'enfants dans les salles de classe, ils n'ont pas été éduqués. Vous mettez beaucoup d'enfants non éduqués ensemble et vous aurez un terrible désordre. On parle du ministère de l'Éducation nationale. C'est un mauvais nom. Ce n'est pas conforme à la réalité. On aurait dû, et on a, dans le temps, on disait le ministère de l'Instruction publique. L'école n'est pas là pour éduquer. Elle fait ce qu'elle peut, je pense. Certains, en tout cas. Mais une école ne peut pas éduquer. Une école est là pour instruire. L'éducation, c'est la formation du caractère. Parce que l'éducation, c'est ça. C'est la formation du caractère. Ça revient au seul parent. Personne ne peut les remplacer. Si vous êtes parent aujourd'hui, vous avez une lourde responsabilité. Et si on y réfléchit un peu, ça nous fait trembler. Mes parents, et je bénis le Seigneur de ce qu'ils ont fait, c'était pas des gens riches. Mais c'est des gens qui ont dit, Dieu nous a donné des enfants pour les éduquer dans la crainte du Seigneur. Ils avaient deux versets principaux. Le premier, c'était, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il disait, nous voulons que notre vie montre au monde ce que c'est que de vivre par la foi, de mettre Dieu à la première place. Et le deuxième verset, c'était, instruire un enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ils se sont dit, c'est une promesse de la Bible. Peut-être nous pouvons prouver que cette promesse est vraie en éduquant nos enfants à connaître le Seigneur. Ils vous diront qu'ils n'ont pas parfaitement réussi, mais ils nous ont enseigné tellement de leçons que nous trouvons qu'ils ont réussi. Mais la phrase terrible de mon père, c'était celle-ci. Je serai... Si j'ai été un bon père, quand je verrai mes petits-enfants, pas de pression, hein? Mais combien cela est vrai? Pourquoi? Parce que la Bible dit, instruisez vos enfants de manière à ce que, devenus grands, ils instruisent les leurs. C'est le savoir-faire, puis le savoir-faire-faire. C'est-à-dire, non seulement moi, je dois être un parent selon Dieu, mais mon influence doit se prolonger pour que mes enfants, ayant vu ma vie, suivent mon exemple et mettent en pratique les mêmes principes bibliques à leur génération. C'est ce que Dieu demande aux parents que nous sommes. Revenons un petit peu à Hébreux chapitre 12. Le mot châtiment, et quand on pense au mot châtiment, ça nous fait froid dans le dos déjà. Je me souviens, étant petit, j'ai reçu mon lot de fessées. Encore, j'étais relativement épargné parce qu'étant le premier, j'ai vu comment ça se passait dans la famille. Et je n'aimais pas du tout la souffrance corporelle. Alors j'ai essayé de me tenir à carreau, mais je me souviens d'une époque de ma vie entre à peu près... l'âge de 5 ans et l'âge de 7 ans, où moi et mes deux frères, On avait une imagination fertile, on trouvait une nouvelle bêtise qu'on n'avait jamais faite auparavant à faire pendant à peu près 1000 jours, 3 ans. Et je me souviens, on avait droit à la fessée une fois par jour pendant au moins 3 ans, sinon 2 fois. Les parents étaient fidèles. Mais ce qui nous a touché le plus peut-être dans cette question-là, c'est que nos parents nous disaient souvent, nous n'avons pas envie de vous donner la fessée. On en est fatigué. Mais nous continuerons parce que nous devons être fidèles à Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous désobéissons à Dieu parce que Dieu nous fait l'obligation de vous éduquer dans la voie que vous devez suivre. Nous n'avons pas le choix. Alors allons dans notre pièce. On aurait voulu dire, mais vous avez le choix, vous pouvez ne pas le faire. Mais finalement, c'est important que les parents fassent comprendre à leurs enfants, nous sommes sous une autorité supérieure. Christ règne sur ce foyer. Christ nous a rachetés par son sang. Et Christ nous donne l'ordre de vous éduquer dans la voie où vous devez suivre. Si nous ne le faisons pas, nous sommes en désobéissance. Et dans ce cadre-là, on peut dire aux enfants, vous devez m'obéir parce que je suis ton père ou ta mère. Mais le jour viendra quand tu n'auras plus à m'obéir. Parce que tu seras majeur, tu auras quitté le foyer. Et c'est toi qui seras seul devant Dieu. Et les fessées, les corrections du Seigneur sont bien plus sévères que les nôtres. Et notre but, c'est quand vous quittez ce foyer, que vous ayez appris à obéir aux autorités et donc obéir à celle de Dieu. Le but des parents, ce n'est pas de garder leurs enfants près d'eux toute leur vie. Leur but, c'est de les rendre autonomes pour qu'ils puissent marcher en toute intelligence dans la présence de Dieu. Alors, nous voyons dans le chapitre 12, simplement, extraire en quelque sorte les principes spirituels de discipline, d'éducation, d'Hébreux chapitre 12. Quand il dit, regardez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Que dit-il? Il dit, je pense que vous êtes en danger. Je pense que vous n'avez pas un caractère assez solide pour résister aux mauvaises influences autour de vous et persévérer dans l'obéissance à Dieu. Même s'il fallait faire de gros efforts, il dit, je crains que vous n'ayez pas un caractère assez solide pour réussir dans un monde hostile. Et c'est pour cela que la discipline est nécessaire. Le châtiment, ce n'est pas, tu m'énerves, je te tape. Le châtiment, c'est comme un entraînement sportif. J'ai un ami qui raconte volontiers cette anecdote, qui est une anecdote que tous ceux qui ont fait l'armée connaissent. Vous entrez dans les forces armées du pays, alors vous êtes un peu mou. Il n'y a pas grand-chose ici. Puis vous avez fait des études, vous avez traîné un peu, et puis vous n'êtes pas très très vaillant. Vous n'avez aucune raison de le devenir. Vous entrez au régiment, et là vous avez un caporal ou un sergent. Vous savez, dès le départ, il vous déteste. Il vous déteste personnellement. C'est clair, votre tête ne lui revient pas. À 5 heures, il vient crier comme un malade dans votre chambre. Non ! Pactage, dans 5 minutes, on part. On fait 32 km à pied, que ça aille plus vite que ça. Alors vous êtes, mais qu'est-ce que c'est que cette violence verbale ? Non, je suis l'objet. Je suis sous le drapeau de mon pays, c'est quoi ça? Au nom de qui se permet-il de me parler sur ce ton? Bon, alors on me donne un petit coup de pied, vous vous levez, vous mettez votre pactage, et puis évidemment, avant 3 km, vous êtes complètement exténué. Vous ne savez même pas comment vous avez fait les 32. Et ça continue comme ça pendant longtemps, et puis Il emploie un langage abusif, il vous traite de bande de vauriens, et puis c'est pénible, et vous en avez marre, et vous dites j'ai une arme, et si je pouvais lui faire la peau à celui-là, sans encourir aucun danger, je le ferais bien. Vous dites il me hait, je sais qu'il me hait. Et malgré vous, vous sentez que dans votre biceps, il y a une nouvelle fermeté, vous sentez dans votre dos, il y a. Plus de muscles, vous arrivez à faire vos marches sans trop fatiguer. Maintenant, le paquetage ne vous semble plus si insoulevable qu'auparavant. Vous regardez dans la glace une fois en passant au bout de quelques semaines et vous ne me reconnaissez presque pas. Mais quel torse que j'ai! Mais c'est incroyable! Qu'est-ce qui se passe? Je suis bouleversé! Et puis alors, le général ou le colonel vient pour faire la revue des nouveaux troupes, des nouvelles recrues que vous avez fait vos classes. Vous avez fait votre entraînement. Tout à coup, votre sergent dit « Allez, viens-vous ! On garde à vous, le con est bien !» Alors vous êtes là. Puis vous le regardez, il est juste là, au bout. Puis le tableau au côté. Et puis, le colonel vient. « Alors, sergent, qu'est-ce qu'on dit de ces troupes ? Qu'est-ce que c'est comme gars ? Ça va ou pas ?»« Mon colonel !» J'ai un des soldats extraordinaires, ils sont entraînés, je suis fier d'eux. Et vous faillez tomber à la renverse, fier de nous, mais ils nous détestent. Et il n'arrête pas de dire, oui, vous êtes surentraînés, vous êtes bons, il est fier de vous, frère de bons soldats. Vous dites, c'est pas possible. Et tout à coup, vous comprenez. Mais cet homme ne nous a jamais haïs. Cet homme était chargé par l'administration de nous entraîner, de faire de nous des hommes qui pouvaient courir, etc. Et nous, on a pensé qu'il le faisait par haine. On pensait qu'il prenait un malin plaisir à nous infliger des souffrances. Et en fait, il nous a fait le meilleur service qui soit. Parce que si on était sur un champ de bataille, dans l'état où nous étions quand nous sommes arrivés au régiment, c'est sûr que l'ennemi nous aurait... tué. Mais là maintenant, on se sent de taille de l'affronter. Et on commence à comprendre le rôle de cet homme. C'est ça l'idée du châtiment en Hébreux chapitre 12. C'est pas un je te cogne dessus parce que je ne t'aime pas. C'est je vais te rendre fort, je vais te préparer, je vais t'entraîner pour que toi, tu puisses marcher droit. Que toi, qu'on puisse compter sur toi. Que toi, que tu puisses résister après avoir tout surmonté. Que tu remportes la victoire dans la bataille qui est devant toi. Le châtiment du Seigneur, dans les versets après 4 et 5, nous montre que nous sommes ses enfants. Il dit, parce que vous êtes les enfants de Dieu, c'est pour cela qu'il vous châtie. Parce que vous lui appartenez. Et c'est pareil pour nos enfants. On ne s'occupe pas des enfants du voisin. Ce serait malvenu de donner une fessée à l'enfant de votre voisin. Vous finirez vite à la cellule. Mais vos enfants, c'est différent. Vous avez une responsabilité. Et parfois, les enfants, ils le font tout le temps. Et pourquoi nous, on ne peut pas le faire et les enfants du voisin, ils peuvent le faire? Le parent chrétien peut dire, écoute, les enfants du voisin sont la responsabilité du voisin. Mais vous êtes notre responsabilité. Dieu vous a fait naître dans notre famille. Et nous, les parents, un jour, on va faire face au Seigneur et on va répondre de la manière dont on vous a éduqué. Et notre Seigneur a donné un livre dans lequel il nous a dit comment faire. On va vous montrer des versets. On peut les étudier ensemble. Mais sachez que si on vous éduque de cette manière-là, c'est parce que Jésus-Christ nous demande de le faire et on va lui rendre des comptes. Et c'est pour cela qu'on vous oblige à obéir. C'est parce que nous sommes nous-mêmes soumis à un supérieur. Notre attitude donc, puisque le châtiment c'est la preuve que nous sommes les enfants de Dieu, notre attitude idéale donc, c'est de nous soumettre à ce châtiment sans nous plaindre. Sachant que c'est nécessaire pour nous. Vous savez, l'une des marques de la maturité dans le caractère, c'est l'absence de la plainte. Réfléchissons à cela. Nous qui vivons dans un pays qui est connu pour ses plaintes. C'est quoi la plainte? La plainte, c'est « je suis victime, innocente, relativement. Il y a des gens autour de nous qui sont méchants, tout le monde est contre moi. Et mais moi, je suis victime. » Quand vous avez 60 millions de victimes, qui donc les agresse? Nous tombons facilement dans la victimisation. La maturité, le langage de la maturité, c'est j'ai quelques difficultés, j'ai quelques épreuves, comme tout en chacun. Dieu les permet dans ma vie. Pas pour que je dise pourquoi ça m'arrive, mais que Dieu veut-il m'enseigner par cette circonstance? Que Dieu veut-il m'enseigner par cette épreuve? Ce n'est pas du tout la même attitude. Avec cette attitude-là, chaque épreuve nous fait grandir. Avec l'autre attitude, chaque épreuve, c'est comme un coup de crosse sur la nuque, qui nous rend de plus en plus en colère et de plus en plus méchants et de plus en plus difficile à vivre. Nous vivons, ça on le sait. Tout le monde le dit, même les gens qui ne connaissent pas Dieu. On vit dans un pays de pessimistes. C'est l'ambiance dans laquelle nous évoluons, mes amis. Nous vivons dans une ambiance de râlerie. Nous vivons dans une ambiance de revendication constante et de la part de tout le monde et en tout temps. Mais tel n'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel nous devons vivre. Dieu dit, je permets des choses dans votre vie, c'est moi qui les permets. Et je vous demande de les accepter. Et je vous demande de les accepter comme venant de moi. Et apprendre ce que vous pouvez apprendre à travers cette série de circonstances. Ça ne veut pas dire qu'il faut être masochiste. Il dit, oh Seigneur, tu me combles d'épreuves, ça me fait du bien d'avoir mal. Frappe-moi encore. Ça c'est malsain. Ça c'est malsain. Mais quand on ne peut pas éviter les difficultés, quelle est notre attitude? Voilà la question. Le Seigneur dit, acceptez-les. Soumettez-vous sans vous plaindre. Sachez que c'est nécessaire. Dans le verset 9, il parle du châtiment de nos pères. Nos pères, ils ont châtié, verset 10, ils ont châtié pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Dieu n'a jamais dit que chaque fois qu'un père a châtié son enfant, il avait raison. Dieu dit, quand un père châtie son enfant, normalement, il le fait sincèrement, il croit bien faire. Et généralement, il fait bien. Il peut lui arriver de se tromper. Quel père dira, je ne me suis jamais trompé? Tous les enfants qui ont fait des bêtises, j'ai toujours puni le bon enfant. Je ne l'ai jamais puni par erreur. Déjà, les témoignages ne concordent pas. Parfois, vous serez tous punis parce que je n'arrive pas à savoir qui est coupable. Parfois, 15 ans après, les enfants disent, oui, tu sais, quand j'avais 10 ans, hein, tu as puni plutôt que mon frère, c'est lui qui l'a fait. Hey, je te demande pardon. À l'époque, ton frère n'avouait pas, je ne savais pas qui c'est. De toute façon, tu en as fait pas mal aussi, toi, les bêtises. Donc, mais si j'ai fait une erreur, je t'en demande pardon. Mais Dieu dit, mais écoutez, les papas font des erreurs, les mamans aussi. Mais au moins, ils ont essayé. Mais il dit, s'agissant de Dieu, lui ne fait jamais d'erreur. Si une épreuve vient dans notre vie, Dieu ne s'est trompé, c'est pas trompé du chrétien. C'est bien vous et moi qui l'a visé. Et il sait pourquoi il l'a fait. Et donc il dit, d'autant plus, Si globalement, nous avons dit, ben oui, généralement, papy avait raison, et puis de toute façon, je le méritais. On ne l'avoue pas à 10 ans, mais à 25 ans, on l'avoue quand même, oui, ben, je les ai mérités la plupart des faciles que j'ai reçues. Et peut-être je n'en ai pas reçu autant que j'aurais dû en recevoir. Mais Dieu ne rate jamais. Son châtiment, son éducation est parfaite. Et c'est pour ça qu'il dit, laissez-vous faire par le Seigneur. Le châtiment de nos parents, même si parfois il y avait quelques petites erreurs, c'était mieux que pas de châtiment du tout. Les enfants qui n'ont jamais été châtiés, c'est un triste spectacle. Un enfant qui n'a jamais été châtié, il ne connaît aucune limite à sa liberté. Il arrive dans le monde de l'entreprise, il pense que c'est comme à la maison. Il savait être violent et maman se plier devant lui, il pense que le patron va se plier devant lui. Quand le patron le renvoie, il est tout étonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours été le roi du monde et maintenant, j'ai perdu mon travail. Et pourquoi tu l'as perdu? Eh bien, parce que j'étais devant le patron et je l'ai traité de tous les noms. Eh bien, c'est pas étonnant. Eh bien, moi, je suis étonné. Parce que quand j'ai traité maman de tous les noms, elle me disait, pardonne-moi, mon fils, pardonne-moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui n'est pas adapté à la vie d'adulte. Parce que ses parents ne l'ont jamais châtié, ne l'ont jamais éduqué. Et mes amis, de plus en plus des jeunes de notre génération et des moins jeunes n'ont pas été éduqués. Parfois on en a contre eux, parfois à l'école on dit ces enfants sont difficiles. C'est les parents, souvent, très souvent, qui les ont privés d'un bon châtiment. Dieu dit, s'agissant de lui-même et de nous, il dit acceptez le châtiment. Dieu ne demande pas d'aimer le châtiment, heureusement, hein. J'avais un collègue, il donnait la fessée à son enfant, mais moins de 10 secondes après, une bonne fessée, ça faisait mal. Moins de 10 secondes après, il disait, c'était un Américain, happy face, montre-moi un visage heureux. Pauvre, il avait 2 ans et demi, alors il faisait... Il essaie de faire un sourire le pauvre. J'avais pitié de lui. Il aurait mieux valu qu'il prenne sur les genoux, qu'il essuie ses larmes, qu'il le cajole, qu'il lui fasse quelques bisous. Et une fois que la douleur se soit totalement disparue, il pouvait sourire. Mais lui demander de faire un visage de joie alors qu'il venait de recevoir une fessée, c'est très même dur. Et le pauvre petit, il essayait. Dieu ne nous demande pas d'aimer le châtiment. Il nous demande de l'accepter. Ce n'est pas la même chose. Et de le regarder comme nécessaire. Pourquoi? Parce que ce châtiment nous permet de réussir notre vie en éternité. Et vous dites, mais réussir ma vie pour l'éternité, c'est bon, c'est déjà réussi. Je serai parfait. Oui, mais le châtiment que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est pour améliorer notre caractère, pour qu'on vive plus totalement pour le Seigneur, pour avoir beaucoup plus de récompenses, plus d'éclat, plus de couronne, pour que notre éternité soit plus brillante, parce qu'il y aura des degrés de gloire dans l'éternité. Et cette gloire sera attribuée aux chrétiens qui ont le mieux marché avec Dieu. Et les chrétiens qui auront le mieux marché avec Dieu, qui auront été les plus fidèles au Seigneur, ce sont les chrétiens qui auront été les mieux éduqués par le Seigneur. Et donc, l'auteur dit ici, acceptez le châtiment du Seigneur, acceptez ce développement de votre caractère, il en va de votre bonheur éternel. Il y a bien des chrétiens qui disent, oh, de toute façon, les couronnes, les récompenses, la gloire, si on me donne un petit coin du paradis, ça me suffit. Au moins, je ne serai pas en enfer, ça me suffira. Vous savez, ce n'est pas la peine de mesurer les conditions du ciel avec nos pensées aujourd'hui. C'est complètement hors de propos. dans le ciel, nous allons aimer le Seigneur. Alors que peut-être ici, on ne l'aime pas tellement. Dans le ciel, les valeurs de Dieu vont devenir nos valeurs. Alors qu'ici-bas, souvent, les valeurs de Dieu ne sont pas nos valeurs. Ici, nos valeurs, c'est que tout aille bien, que je sois bien, que je n'ai pas de problème. Voilà. Dans le ciel, ça va être que Jésus-Christ soit glorifié, que je puisse avoir les couronnes à jeter à ses pieds, que je puisse entendre « Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur ». Nos valeurs vont être d'aimer le Seigneur au ciel. Quelle frustration, quelle tristesse, quel malheur. Si on a vécu uniquement pour ne pas avoir de problème et on n'a pas cherché à grandir dans le Seigneur et qu'on n'a pas préparé l'éternité. Ça, c'est le verset 11. Et donc, versets 12 et 13, ils montrent que le châtiment dont ils parlent, c'est ce qu'on appelle la kinésithérapie. Vous avez foulé la cheville. On le voit bien sur les champs de football. Mais c'est incroyable, ces footballeurs. Moi, je suis tout à fait étonné. Alors, on voit parfois même personne ne les a touchés. Puis ils s'écroulent. Ils s'écroulent et puis parfois, c'est vrai, ils ont quelque chose, un genou ou bien une cheville. On voit tout de suite des gens qui arrivent, des entraîneurs, des infirmières, enfin je ne sais pas comment on les appelle, tous ces gens-là, qui se précipitent avec la civière et tout cela, et on dit ça y est, il est tout près de la mort. Alors non, ben, oh, il en a... Alors on dit, on le touche, bon mais ça va, on dit il n'y a rien de cassé, et puis entouré de deux gars, oh, ils se soulèvent. Et puis on voit qu'il marche et on a vraiment pitié. On dit, il a au moins pour 6 semaines à l'hôpital. Et puis tout à coup, il commence à marcher. Et puis, hey, et puis il commence à courir. Comme s'il n'avait rien. Moi, je suis toujours époustouflé par ça. Je dis, mais c'est de la comédie ou quoi? Non, mais ils sont chauffés. Leurs jointures sont chauffées là par leur course. Ils sont entraînés. Ils sont forts. Ce sont de vrais athlètes. Et qu'est-ce qu'on fait? On les fait marcher sur un terrain plat jusqu'à ce que la cheville reprenne des forces qu'elle avait temporairement perdues et hop, ça repart. C'est une parfaite image de ce qu'il dit ici dans le verset 12 et 13. Les mains languissantes, c'est qu'on est complètement affaibli. Spirituellement, je n'en peux plus. Ah, je suis découragé. Je vais tout laisser tomber. Et le Seigneur vient. Bam! Oh! Ça fait mal! Lève-toi. Oh, oh, c'est cruel! Lève-toi! Non, mais c'est cruel, Seigneur! Lève-toi! D'accord. Allez, marche maintenant. Oh, ça va un peu mieux, on dirait. Ah, tiens, ça va mieux. Et voilà. Est-ce que c'est une preuve de haine ou d'amour? C'est une preuve d'amour. Évidemment, c'est une preuve d'amour. Une fois qu'on commence à marcher droit, on sent que les mains et les pieds reprennent force, on se tourne vers le kiné, le Seigneur dit merci. Merci de ce que tu as fait pour moi. J'en avais besoin. Je voulais de la pitié et tu m'as donné de la compassion. C'est pas la même chose, la pitié et la compassion. La compassion, parfois, dit, allez, lève-toi maintenant. Je sais ce que tu ressens, je sais ce qui te fera du bien, lève-toi, on y va. Ce sont les principes généraux du châtiment. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec un enfant pour le discipliner, pour le corriger, pour le préparer? Pour un enfant de 0 à 1 an, alors c'est tout petit, hein? Et puis vous dites, de 0 à 1 an, un enfant, il ne fait rien de mauvais, il est trop petit. Détrompez-vous. On ne peut pas le prouver médicalement, mais je soupçonne les enfants, avant leur naissance, de se mettre en colère quelquefois. Maman dit, mais il n'arrête pas de tambouriner, on dirait qu'il est en colère. On ne peut rien prouver, hein? J'ai rien dit, hein? Mais je sais qu'à la sortie du sein maternel, dans les premières semaines, il peut montrer de la colère. Et un enfant tout petit peut montrer par la qualité ou par le son de ses cris ce qui en est dans son âme. On a entendu des cris d'enfant. L'enfant qui a faim, c'est comment?
Ouais, on voit qu'il a vraiment faim, on presque, s'il avait la parole, il pourrait le dire. Hein?
Puis un enfant dont la couche est sale, c'est
ouais,
on sent, ça m'irrite d'avoir ça derrière moi. Hein? Mais un enfant qui est en colère, c'est vous avez entendu déjà un enfant brûler comme ça? Moi, oui. Hein? Non, mais dans le cri de l'enfant, on entend souvent, on peut discerner la colère ou autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas lui dire, arrête ça maintenant. On peut lui dire, il comprend. Mais il ne va pas forcément s'arrêter. Est-ce qu'on peut honnêtement frapper un enfant de 6 mois? Non, pas frapper, non, sans doute pas, non. Mais peut-être tapoter. Pas exactement la même chose, hein. On peut prendre un enfant en bas âge, l'amener dans une autre pièce et donner quelques tapes avec les doigts en haut des cuisses. J'ai vu bien des parents sincères. Tu vas voir ce que tu vas recevoir. Le bébé, là, il couche comme ça. Et la maman, ping, 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 le bébé n'a rien senti, hein. Mais rien du tout. J'ai pourtant donné la fessée. Ben oui, évidemment, il y avait 15 cm droite de cellulose, là. Mais juste là où ça s'arrête, les petites cuisses, tic, tic, ça fait juste assez mal pour que l'enfant dise, il dit rien, mais il vous regarde. Les yeux comme ça, mais tu m'as fait mal. J'en reviens pas. Et c'est incroyable, on l'a vu tant de fois. Il arrête de pleurer. Parce qu'il comprend, si je continue, j'ai cette douleur-là. Je peux m'arrêter. Tiens, je vais négocier avec maman. J'arrête de pleurer. Tout va bien. On peut lui expliquer avec une voix ferme. Mais il ne faut pas se fâcher. On peut dire de manière générale, dans la discipline de l'enfant, il ne faut pas se montrer en colère. Il ne faut pas être en colère. On connaît bien des papas qui... Hein? Ils vont faire une promenade autour du quartier et revenir quand ils sont un peu plus calmes. Parce qu'il ne s'agit pas d'évacuer sa colère sur l'enfant, il s'agit de l'enseigner en bon comportement. Et on ne peut pas le faire si on ne se contrôle pas soi-même. Pour un enfant de 4 à 12 ans, il y a de la discipline corporelle. Il y a un très bon livre que je vous recommande, tout se fait avant 6 ans. Ce sont des gens qui ne sont pas convertis, mais qui comprennent très bien l'enfance. 90% de la personnalité de l'enfant est établie à l'âge de 6 ans. Et donc, ces premières années sont absolument essentielles dans l'éducation de l'enfant. Qu'est-ce qu'on doit enseigner à un enfant? Assieds-toi petit. Voilà les règles de la maison. Il y en a pour 325 pages, écrit petit. On veut que tu apprennes toutes les règles de la maison. C'est comme dans le gouvernement, même les fonctionnaires ne connaissent pas toutes les nouvelles lois qui sortent. Hein? Si vous avez 300 pages de loi de la maison, même vous ne pouvez pas les citer. Non, pas besoin d'un manuel de conduite. Il y a une seule règle qu'il faut renforcer continuellement, c'est l'obéissance. Quand papa et maman te disent quelque chose, il faut obéir. Il faut obéir maintenant. Ça, c'est la plus grande leçon qu'un enfant puisse apprendre, l'obéissance. Parce que les règles, ça change avec l'âge. Les requêtes, ça change au cours de la journée. Mais ce qui ne change pas, et ce qui fait des relations harmonieuses, et ce qui fait l'ordre dans une famille, c'est que les enfants obéissent à leurs parents. C'est le fondement même de la société. Une société où il n'y a pas d'obéissance est une société qui se disloque. Une famille où il n'y a pas d'obéissance, c'est une famille qui se disloque, qui tombe en ruine. Ce sont des individus qui vivent sous le même toit tant qu'ils peuvent. Mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de donneur d'ordre, il n'y a pas de gens qui obéissent. On ne peut rien faire. Dans une usine, dans n'importe quelle structure sociale, il faut avoir des gens qui obéissent. Et donc, dès le plus jeune âge, un enfant doit apprendre à obéir. Alors, de plus en plus tôt, les enfants disent « Pourquoi ?» Mais à 2 ans, vous savez, c'est le « Pourquoi ?» Puis ils ont une petite voix nasale à 2 ans, c'est « Et pourquoi ?» Alors là, vous vous êtes parti pour une longue discussion. « Et parce que maman l'a dit. » « Et pourquoi ?» Et bien parce que papa a mis à maman de le dire au junior. « Et pourquoi ?» Et parce que le Seigneur Jésus a dit à papa de dire à maman de dire à junior. « Et pourquoi ?» Voilà, ça s'arrête avec le Seigneur. Mais on n'est pas obligé de dire pourquoi. Ce n'est pas toujours essentiel. Et d'ailleurs, même le Seigneur ne dit pas toujours le pourquoi de ses ordres. Ce n'est pas essentiel qu'on connaisse systématiquement le pourquoi. Parce que quand on tombe dans ce travers du pourquoi et on explique, l'enfant, croyez-moi, il est brillant. Même l'enfant le plus moyen, il est absolument brillant quand il faut vous prouver qu'il a un autre point de vue et que votre point de vue n'est pas forcément le meilleur. Mais maman, 3 ans et demi, mais maman, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme moi, je pense, parce que c'est mieux. Et là, vous avez maman et junior qui sont en train d'avoir une discussion sur le comment, le pourquoi, et le s'il le faut ou s'il ne le faut pas. Et le junior, il va être beaucoup plus persévérant. La maman va dire, « Eh bien, écoute, tu fais comme tu veux. » Mauvaise réponse. Junior, il ne sait plus maintenant ce qu'il faut faire. Il n'a plus de cadre. Il dit, « C'est moi qui commande le foyer, j'ai 3 ans et demi. Mais je ne sais pas commander un foyer. » Mes parents me disent de faire ce que je veux. Mais je pense que la plus des choses que je veux faire, ce n'est pas une bonne chose. Qui est-ce qui va me cadrer? L'enfant lui-même se trouve frustré et apeuré. Parce qu'il sait au fond de lui-même que c'est son père et sa mère qui doivent fixer les règles. Il sait au fond de lui-même que ses parents devraient lui faire obéir. Et il est frustré parce que ses parents renoncent à le faire obéir. Alors parfois, un enfant développe une bêtise ou une erreur parce qu'on ne lui a rien dit. Un exemple classique, on est à table et l'enfant place son verre de jus d'orange ou d'eau juste à côté du bord de la table. Tout le monde a fait ça. Et puis alors avec les coudes et le copain et le frère ou la sœur, et ping, ça tombe par terre. Oh, il y a des parents. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as sali ma moquette, tu vas voir ce que tu vas recevoir. Et pim, pam, pum, pam, pam. Mais... très mauvaise réaction. Là, on ne pense pas à l'enfant, on ne pense pas à le discipliner, on ne pense pas à l'éduquer, on ne pense pas à l'instruire. On pense à se défouler sur lui, sur une colère qui vient de monter en nous. C'est un gamin, un grand gamin qui punit un petit gamin. On ne lui a jamais rien dit qu'il fallait le mettre devant son assiette et pas sur le bord de sa table. Pas besoin d'aller la fesser. Il faut nettoyer. Bon, écoute, maintenant, à partir de maintenant, tu as vu ce qui s'est passé? Pourquoi le verre il est tombé de la table? Je sais pas. Parce que tu l'avais à côté du bord de la table. Désormais, il faut le mettre devant. Ici, regarde là. Mets-le là. Okay. Est-ce que tu vois où il faut le mettre? Oui. Tu vas le mettre toujours là. Si tu le mets au bord de la table une autre fois et que ça tombe, tu auras une fessée. Parce que c'est dangereux. Ton coude peut taper ou bien ta soeur ou ton frère peut... C'est dangereux à côté. Okay. Est-ce que tu as bien... Il faut bien qu'il comprenne. Mais une fois qu'il a compris et qu'il le met là exprès, hop, ah oui, d'accord, ok. Mais quand tu commences à le faire exprès et que ça tombe de nouveau, mais vous êtes fondé à dire, qu'est-ce que maman a dit? Où est-ce qu'il fallait placer le verre? Devant l'assiette. Où est-ce que tu l'as placé? Au bord de la table. Pourquoi il commence à pleurer? Mais il sait très bien ce qu'il va recevoir, puisque vous lui avez dit. Alors lui, évidemment, il dit, je vais... Alors, psychologie, ça marche bien. Il dit, je vais pleurer. Je vais vraiment montrer que... Oui, vraiment, ça va... triste. Et ma mère va dire, oh, mais bon, ne le pleure pas, je ne donne pas la fessée. C'est gagné. Un enfant est très, très fin. Plus intelligent que vous, généralement. Pour éviter les fessées, entendez. mais ne vous laissez pas émouvoir par ses larmes. Bon, écoute, je t'ai dit, tu as désobéi. Viens, on va aller dans notre chambre, régler ça rapidement. On va pas faire un discours de 3 heures. On l'amène, 2-3 tapes. Tu as compris maintenant, c'est bon. Oui, maman, ok, allez. On revient à table, on n'en parle plus. Il y a des parents. Ça, c'est le discours qui tue. L'enfant, il a 4 ans. Et il fait tomber son verre. Pour la 3e fois. Et maman est là.
Julio, vraiment, je suis déçu de toi. Pourquoi? Parce que tu refuses de m'obéir. Mais pourquoi tu manifestes cette rébellion? Je te croyais un enfant gentil. Et voilà, ça fait la 3e fois que tu mets ton verre au bord de la table.
Vous attendez à quoi, maman? C'est un enfant. Il va le faire 10 fois. Pourquoi vous êtes déçu? Parce que vous lui faisiez confiance ou quoi? Erreur. On ne fait pas confiance à l'enfant. Nous sommes en train de l'instruire. On peut faire confiance à un enfant quand il se montre digne de confiance. Et très rapidement, au fur et à mesure qu'il grandit, 6, 7, 8, 9 ans, on lui donne des privilèges. Maman, je peux aller voir mon copain? À côté? Chez lui? Bonne question. Premièrement, est-ce que vous connaissez le copain? Toi, maman, lui le connaît. Est-ce que toi, tu le connais? Non, je l'ai vu une fois. Est-ce que tu connais sa maman? Non. Est-ce que tu sais comment c'est dans la maison de son copain? Non. Alors peut-être, mais invite ton copain à venir ici. Première fois. Et puis arrangez-vous pour aller voir la maman du copain pour voir comment c'est, voir comment elle parle. Chez nous, on avait des voisins qui étaient très gentils, mais ils avaient un langage. Et un langage ordurier. Les parents, évidemment, les enfants. Alors, nous n'avons pas permis à nos filles d'aller jouer chez elles. Et elles n'ont jamais vraiment compris pourquoi. Mais on a fait venir leurs enfants chez nous. Et on leur a dit, ici, on n'emploie pas de gros mots. D'accord, madame. Et comme elles aimaient bien nos enfants, elles venaient très souvent jouer avec nos enfants dans le jardin. Et justement, Damaris, pour ne pas la nommer, la pauvre, il ne faut pas lui dire que j'ai dit ça. C'est entre nous. Hein. On ne m'avait pas la langue à la poche. Et puis, quand un enfant sortait un gros mot, nous n'employons pas de gros mots chez nous. Les enfants. Pardon, 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 madame, pardon. Et quelques temps après, c'était plus fort qu'elle. Pas de gros mots chez nous. Ah oui, c'est vrai, pardon, pardon. Mais à la fin, on ne disait plus de gros mots chez nous, en tout cas. Mais pourquoi pas? Ils ont le droit d'avoir des copains, mais il faut contrôler l'atmosphère dans laquelle ils évoluent. C'est important parce qu'on est responsable non seulement pour notre rôle dans leur discipline, mais pour l'exercice des autres dans leur vie, d'où le besoin de connaître leur maître, leur maîtresse, de leur dire aussi ce que vous faites, quel est votre projet d'éducation pour vos enfants, pour qu'ils puissent peut-être vous aider. Aussi, quand un enfant commence à grandir, il commence à devenir 10, 11, 12 ans, il peut comprendre. Dès que vous sentez qu'il peut le comprendre, on peut lui donner davantage de liberté. Si maintenant vous connaissez la maman du voisin et que ça va bien et que vous pensez que votre enfant peut aller jouer chez lui, on peut fixer une heure par exemple. Quelle heure est-il, Junior? Ben, là, il est 5h15. Bon, mais on mange à 7h. Donc, je veux que tu reviennes à 6h45. D'accord? Regarde la montre. Combien de temps il te reste jusqu'à 6h45? Une heure et demie. C'est ça. Alors, tu vas là-bas, tu dis à la maman de ton copain de te dire quand c'est 6h45 que tu reviens à la maison. Est-ce que c'est bien compris? À quelle heure tu vas revenir? Ne pensez pas qu'on en fait trop là. Il s'agit de bien faire comprendre à l'enfant la règle. Une seule règle, il faut revenir à 18h45. Votre enfant s'amène à 8h30. Enfin, j'exagère. Mais enfin... Mais où est-ce que tu as été? Mais chez le copain. Mais à quelle heure tu devais revenir? Je me souviens plus. Mais si tu te souviens, regarde la montre, c'était... Ah oui, c'était à 6h45. Tu as dit à la maman de ton copain? Non, j'étais trop occupé avec jouer avec mon copain. Eh bien, écoute, la prochaine fois que tu me demandes, tu ne peux pas aller chez ton copain pendant au moins 15 jours. Parce que maman t'a fait confiance. Mais tu n'as pas suivi, tu n'as pas obéi. Mais peut-être, un peu plus tard, tu peux redemander, puis on verra si on peut te faire confiance. Parce qu'on voudrait te faire confiance. Mais si l'enfant arrive à 6h45, c'est bon signe. La prochaine fois, il peut aller un peu plus longtemps. Et ainsi de suite, l'enfant comprend, mes parents veulent me laisser des libertés, mais à condition que j'obéisse. Parce quel est le but? Le but, c'est de faire entièrement confiance à cet enfant un jour pour qu'il quitte votre foyer, qu'il épouse quelqu'un et qu'il fonde son propre foyer. Mais ça ne se fera pas bien à moins qu'il ait appris à obéir à ses parents. Et plus il sera responsable quand il est petit, plus il sera responsable quand il sera grand. Et le Seigneur dit, effectivement, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et donc, peu à peu, on lui donne du champ, de la latitude. Alors, un enfant, quand il commence à poser des questions, pourquoi? À 2 ans, c'est pas trop la peine, il faut lui apprendre à obéir sans poser des questions. D'ailleurs, le Seigneur fait la même chose avec nous, hein. La première fois qu'il nous demande d'obéir, il ne donne pas une explication comme ça. Il dit obéis. Parce qu'on est petit. J'obéis, je ne pose pas de questions. Dieu a dit, je le fais, ça suffit. Mais quand l'enfant devient plus grand, adolescent, il s'imagine déjà, un jour je vais être adulte, ce qui n'est pas faux. Et mes parents, ben, ils ont fait comme ils ont voulu, mais je pense qu'ils ont tort à peu près sur tout. Parce que maintenant, moi, j'ai 13 ans et moi, j'ai tout compris. Et mes parents, les pauvres, ils sont d'une autre génération. Je pense qu'ils n'ont à peu près rien compris. Parce que vous savez, comme toutes les générations qui montent, que la vérité, ça change tous les 20 ans. Donc, les gens qui ont au-dessus de 35 ans, on les soupçonne de ne plus du tout être à la page. Alors, nous autres qui avons 35 plus, on a appris que la vérité ne change pas de génération en génération, mais allez leur dire. Et c'est là où nous devons pouvoir, comme dit la Bible, donner une raison des règles que nous donnons. Ouvrir la Bible avec eux. Pourquoi on vous demande d'obéir sans poser des questions? Parce que la Bible nous dit... Papa et maman, ils doivent obéir à Dieu et parfois nous ne comprenons pas pourquoi. Il faut le faire. Mais après, on comprend. Dieu, souvent, il donne la raison. Mais une fois qu'on a obéi, quand on demande avant d'obéir, c'est qu'on veut le contester. Quand on demande la raison après avoir obéi, c'est qu'on veut apprendre. Et ça vaut pour nos enfants. Obéis d'abord. Je t'expliquerai après. Jésus n'a pas dit autre chose. Il a dit, si quelqu'un veut croire en moi, si quelqu'un veut m'obéir, il comprendra si ma doctrine est de Dieu ou pas. Hein? On vous donne un dessert. Bêtement, vous dites, est-ce qu'il est bon ce dessert? La personne va dire, de toute façon, vous n'accepteriez pas ma réponse. Je vous dis qu'il est excellent, vous pouvez croire le contraire. Je peux vous dire, il est immonde. Pourtant, il a l'air délicieux. Je vous suggère quelque chose, goûtez le dessert, vous me direz si c'est bon ou pas. Dieu dit, obéissez, vous verrez si j'ai raison ou pas. Alors moi, je n'obéis pas avant d'avoir compris. Eh bien, tu ne comprendras jamais. Dans cette question de Dieu, et des parents-enfants, l'obéissance est la clé de la compréhension. Et quand un enfant a obéi, quand on l'a obligé à obéir pendant sa tendre jeunesse, pendant son enfance, quand il est adolescent, il va poser des questions, mais souvent il en posera moins parce qu'il comprend, il comprend lui-même la raison de ses ordres. Mais c'est le moment, quand il est ado, de lui faire découvrir le pourquoi des ordres. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas dire à un enfant de 15 ans, « Ben oui, on t'a donné la fessée parce qu'on était très fâché contre toi, on n'en pouvait plus, il fallait sortir cette agressivité dans notre âme, on t'a donné les raclées. » Non. Si vous l'avez fait, même si vous ne dites pas, l'enfant aura compris. Et il le reproduira dans son foyer ce que vous avez fait. Mais si vous pouvez dire honnêtement, on t'a donné la fessée, on t'a corrigé parce que Dieu nous en a fait le commandement et nous voulons obéir à Dieu. Et aussi parce que la Bible dit que si un enfant obéit à ses parents, il aura une longue vie. Il aura une vie heureuse. Dieu attache une promesse à cette question d'obéissance. Et c'est pour cette raison-là qu'on tenait à te faire obéir. Parce qu'on veut que Dieu te bénisse. On veut que tu vives longuement et dans le bonheur. On veut faire de toi un vrai adulte. Et un vrai adulte est quelqu'un qui obéit à Dieu. Et donc, un enfant heureux qui obéit à ses parents sera généralement un adulte heureux qui obéira à Dieu. Et l'enfant peut comprendre. L'enfant peut comprendre à ce moment-là, souvent sans trop d'explications, le pourquoi de votre éducation. Et vous savez quoi ? Il aura tendance à reproduire votre bon exemple dans sa famille. Pour conclure, peut-être, et je pense qu'il n'y a aucun ici, entre nous, moi compris, qui se dit, bon, mais à la lumière de ce message, je pense avoir parfaitement réussi l'éducation de mes enfants. Là, je ne vois pas d'erreur que j'ai pu commettre. Je pense que personne d'entre nous ne pense cela. Parce que tous les parents font des erreurs. Peut-être vous dites, oh là, je vois des erreurs que j'ai commises, mais je sais que j'ai commis des erreurs. Même avant de venir ici ce matin, je sais que j'ai commis des erreurs. Et je vois à peu près lesquelles. Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper ces erreurs? Il y a une seule chose qu'on peut faire. C'est bien réfléchir, bien prier, et fixer rendez-vous avec vos grands-enfants. Leur demander de venir, de s'asseoir avec vous. Et vous pouvez leur dire, à l'époque, nous pensions faire comme il fallait. Mais mes enfants, nous avons commis des erreurs. Voici lesquelles erreurs qu'on a commises. On a découvert ceci dans la Bible. On ne se rendait pas compte. Et on veut vous demander pardon. Savez-vous qu'il y a des gens, surtout des papas, qui disent « Moi, jamais je demande pardon à mes enfants. » Un père, ça a toujours raison. C'est comme ça. Mon père avait toujours raison, mon grand-père avait toujours raison. Moi, j'ai toujours raison. C'est comme ça dans la famille. Elle continue à avoir raison alors. Ne lâchez rien surtout. Et laissez vos enfants grandir en disant, mon pauvre père, il est enfermé dans un trou où il a toujours raison, il n'a jamais tort. Pourtant, il n'a pas cessé de faire des bêtises, mais allez le lui faire admettre. Il pense que s'il admet qu'il a fait des erreurs, il perdra de sa crédibilité. En fait, s'il les admettait, je le respecterais davantage. Au moins, il a vu clair. Mes amis, nos enfants savent que nous avons fait des erreurs. Ils le savent. Ils le savent même avant nous. Et leur dire, quelles sont ces erreurs? Qu'on demande pardon. Et n'allons pas, comme parfois les gens font, écoutez les enfants, on a fait ce qu'on a pu faire, si jamais on a fait des erreurs, on s'excuse. Hein.
Si jamais il a fait des erreurs, mais j'ai la liste comme ça.
Si jamais, ça veut dire je ne pense pas en avoir fait, mais enfin, pour vous calmer, je dis si jamais j'en ai fait. Non, ça ne marche pas. Quand on veut instruire ses enfants, on peut dire voilà les erreurs que j'ai commises. Voilà ce que dit la parole. Voilà où j'ai échoué. J'ai demandé au Seigneur de me pardonner et je suis sûr qu'il m'a pardonné parce que le sang de Jésus l'a de tout péché. Mais j'ai besoin de votre pardon aussi. Et puis surtout de vous dire, ne commettez pas les erreurs que nous avons commises. Prenez la Bible, étudiez-la plus que peut-être vos parents l'ont fait. Parce que vous pouvez devenir de meilleurs parents que nous l'avons été. Grâce à cette Bible, grâce au Saint-Esprit, grâce à l'obéissance. Vous savez, ça touchera le cœur de vos grands-enfants comme rien d'autre. Ils vous respecteront plus. Ils diront peut-être pour la première fois, je les sentais vraiment humbles et sincères. Ça, c'est l'effet que l'Esprit de Dieu produira dans leur cœur. On l'a fait comme on l'a trouvé bon. Seigneur, aide-nous à progresser. Prions. Notre Dieu et Père, nous voulons te prier que tu touches nos cœurs profondément par rapport à cette énorme responsabilité d'éduquer nos enfants. Nous prions pour les jeunes couples ici présents qui ont cette éducation devant eux et qui commencent déjà à mesurer l'importance, la difficulté à le faire. Nous savons, Seigneur, que la meilleure chose, le meilleur équipement, le secret d'une bonne éducation, c'est que nous les parents, on ait un cœur brisé. Que nous soyons convaincus que nous sommes inadéquats pour cela. Et que nous nous tournions vers toi en disant, Seigneur, éduque-moi, montre-moi comment éduquer mes enfants. Seigneur, je veux élever une génération pieuse, mais je ne pourrai le faire sans ton aide. Permets-nous de nous humilier, jeunes et vieux, là où il y en a besoin. Mettre les choses en règle s'il le faut. Mais nous te prions de nous aider à être un bon exemple pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre entourage. Par Jésus-Christ. Amen.